Le séminaire du 22 février, l'art du psychanalyste à Paris. Alors, on va continuer là ce soir. Je vais simplement dire un mot, là on est quelques-uns à être à la présentation du livre de Claude Maillard. Et je dirai un mot la prochaine fois, puisqu'il ne peut pas être là ce soir. Mais ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est ce qu'il peut y avoir dans... Et justement, c'est ce que j'envisageais d'introduire ce soir... À nouveau, on pourrait dire encore, hein, pour reprendre la façon dont Lacan pose les choses, encore, c'est ce qui finalement est au cœur de la création, et du coup on pourrait dire aussi bien au cœur du transfert qu'au cœur de l'œuvre d'art, c'est la supposition, d'un autre rapport au temps et à l'espace. Et il me semble que c'est bien ce qui est dans cette œuvre d'art qu'elle a faite, dans cet objet d'art qu'elle a fait à travers son. Donc j'en dirai un peu plus quand elle sera là, peut-être la prochaine fois. Alors ce que je voulais qu'on parte un peu de ce qu'on a dit les dernières fois, et notamment, peut-être plus particulièrement, vous vous souvenez, la dernière séance, on est parti de cette peinture de Nicolas Poussin qui est intitulée « Eliezer et Rebecca » et qui, justement, pose la question de qu'est-ce que le récepteur, autrement dit, dans quelle mesure celui qui voit la peinture peut être récepteur ou non de quelque chose qui, bien sûr, ne va pas de soi, puisque ça dépasse ce qui est vu avec les yeux. Ce qui est vu, ce qui est pensé, ce qui est compris. Et il m'était venu l'importance d'aborder ce tableau. Pourquoi ? Parce que c'était dans l'après-coup du colloque d'insistance où nous avions proposé un dispositif qui était que, justement, ceux qui parlaient de textes, puisque ce tableau part d'un texte de la Genèse, c'est la rencontre donc d'Eliezer et Rebecca, et donc on avait fait un colloque où il était question de partir de textes, et les discutants qui avaient été choisis par les auteurs de textes avaient à rendre compte de la sollicitation que ce texte avait éveillé en eux, et non pas de commentaires en s'adressant à l'auteur qui, c'était ça le dispositif, qui, on pourrait dire, était là, mais ne parlait pas, en tant que tel. Ça n'empêchait pas qu'il pouvait y avoir parfois... quelque chose qui pouvait s'organiser autrement, mais l'idée c'était ça, c'était de vous pouvez reconnaître dans ce dispositif-là quelque chose qui fait penser aux passants, aux passeurs et au public. Donc, ce qui était intéressant dans cette peinture, c'était qui date de 1648. Qui a été commenté, et c'est pour ça que c'était intéressant, ça venait, on pourrait dire, exactement dans la suite du colloque, qui a été commenté à trois reprises, dans le cadre de l'Académie royale de peinture, par des personnes qui connaissaient ce qu'était, à ce moment-là, la peinture, et c'est tout à fait intéressant de se rendre compte des différents commentaires, et notamment du fait que certains n'arrivaient pas à décrocher, c'est-à-dire rester fixés au fait que il y a quelque chose qui est dans le texte et qui n'est pas sur la peinture, c'est l'histoire des chameaux. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui... Et donc ça posait la question de qu'est-ce que c'est qu'un tableau.
Et pour ceux qui ne
Oui, mais c'est... Oui, mais c'est dans le texte de départ, hein, l'histoire des chameaux. Il doit y avoir des chameaux, puisque c'est à partir du fait que les chameaux sont abreuvés par Rebecca. Il y a aussi Eliezer, bien sûr, qui reçoit de l'eau, mais c'est à partir de ce moment-là qu'est reconnue Rebecca, puisque Eliezer ne sait pas du tout. Il est envoyé par Abraham pour trouver une femme à son fils, Isaac, mais il ne sait pas du tout... à quoi elle ressemble, ni rien. Donc, ce qui était prévu, au niveau du signe, on va dire, c'était ça. Alors, je ne vais pas trop reprendre ça aujourd'hui, parce que je voudrais un peu avancer, mais c'est seulement pour réintroduire l'importance, on pourrait dire, de l'objet, on va dire, tel qu'il peut être vu, et surtout, ce qui peut... Alors, c'est ça la question du récepteur, ce qui peut être... Alors, est-ce que c'est vu, est-ce que c'est entendu? Ce qui peut être entendu à partir du moment où, dans un tableau, on a vu dans ce tableau que ce qui était important, c'était une certaine présence, pas n'importe quelle présence, une certaine présence qui était une femme, et que cette femme, en fait, elle présentait effectivement notamment la caractéristique de nouer en elle-même, de joindre en elle-même par sa présence, une certaine présence, je ne reviens pas dessus, ce qui était de l'ordre de, on pourrait dire, de la terre, qui était présentifiée par des colonnes et par un paysage, on va dire, qui faisait penser à Rome, et d'un autre côté, ce qui était plus particulièrement actuel. Et ce que je proposais, notamment, c'était de rapprocher ça de ce qui a lieu au milieu du XIXe siècle, en France, sous la plume de Baudelaire. Dans son livre qui s'appelle « Le peintre de la vie moderne », il présente effectivement la modernité comme étant, bien sûr, le transitoire, le fugitif, le contingent, mais ça, ce n'est qu'une moitié, dit-il, de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Et c'est exactement ce que Claude a dit tout à l'heure, à un certain moment, en parlant de son livre. C'est-à-dire cette question qui est que il y a à prendre en compte à la fois, alors on pourrait le dire autrement, ce qui est immuable, c'est-à-dire quelque chose qui renverrait à la structure, et puis quelque chose qui soudainement peut apparaître. Et ça suppose, effectivement, tant du côté de l'artiste que, je crois, que du côté du psychanalyste, dans le transfert, qu'il soit, on va dire que le psychanalyste soit psychanalysant, c'est-à-dire qu'il ne soit pas pris par tout un savoir qu'il a, qu'il connaît, bien sûr, mais qui risque de le fixer, de le figer dans une position de compréhension et de penseur, puisque ce qui est important, c'est la rencontre de ces deux champs. Et on voit bien que quand Lacan parle, après Freud, mais de façon plus développée que Freud, plus précise que Freud, de cette division de l'autre, qui, à partir de laquelle pourra advenir ou pas la division du sujet, c'est-à-dire le sujet de l'inconscient, le S-barré, on voit bien que là, il y a quelque chose qui parcourt en permanence la façon dont, à un moment ou à un autre, il peut être question de modernité. Et du coup, la question de la modernité, ce n'est pas du tout, dans cette perspective-là, ce n'est plus du tout le fait qu'il y a ce qui est moderne et puis ce qui n'est plus moderne. On change complètement. Et c'est tellement important que, si on reprend le terme « modernus » qui apparaît au VIe siècle, je crois que j'en ai parlé la dernière fois, dans le on appelle le bas latin, en fait, ce qui est le cœur du mot, c'est modus. Modus, et vous voyez que modus, ça d'emblée, ça nous conduit sur la musique, c'est toute la dimension modale de la musique qui a précédé la période tonale. C'est le mode. Le mode dans la langue, c'est aussi bien la musique, c'est aussi la grammaire, indicatif, subjonctif, c'est un mot qui est relativement riche. Et en fait, ce qui est en jeu à travers ce terme, modus, c'est, à travers mode, il y a même la mode, mais c'est encore autre chose, c'est ça qui est important, et je crois que ça ne peut pas perdre en fait de sa valeur. Le mode, c'est ce qui tombe exactement, modus, modo en latin, ça veut dire quasiment ce qui est au bon moment. C'est exactement ce qui tombe quand il faut. Et vous voyez qu'à travers un mot comme ça, avec toute la façon dont il a permis de nommer, au niveau de la musique, au niveau de l'art, ce mot est très riche. Et en même temps, alors voilà, j'ai encore un petit mot là-dessus. En même temps, par le biais de modernus et de la modernité, quelque chose va déraper justement avant que Baudelaire se prononce sur ça. C'est le fait que progressivement, alors là je crois que c'est un effet des Lumières, progressivement la modernité va partir du côté du progrès et du côté du fait d'une espèce de soif de nouvelles connaissances qui va faire que cette soif de nouvelles connaissances, toutes les dimensions, qu'est-ce que c'est finalement que la connaissance au sens de la science, eh bien, c'est quoi? Puisque on parle en Chine, là, c'est qu'est-ce que c'est que la science? C'est sans doute quelque chose qui, dès qu'un nouveau savoir apparaît, le savoir antérieur n'a plus de valeur. Et vous voyez que là, il y a certainement une articulation qui pose la psychanalyse comme étant ce tiers, pas encore classé, dit Lacan, pas encore classé, à côté de la science, d'une part, et qui a à prendre de la graine de l'art, d'autre part. Voilà, on est dans le pas encore classé, et c'est comme ça que je voulais repartir ce soir pour revenir à la musique, après ce détour par la peinture, et par le biais de ce que Baudelaire lui-même propose comme éthique particulière de l'art. Et je dirais que, c'est une vraie question. On va commencer à l'aborder aujourd'hui, puis peut-être que je vais essayer de la lancer dimanche dans la table ronde qui suit la pièce d'Alain sur le nazisme, puisque l'expressionnisme pose cette question, c'est que l'expressionnisme a été récupéré par le nazisme, donc ça nous pose toutes sortes de questions, et je voudrais tout à l'heure, je pense, commencer à introduire le dialogue entre Schönberg, musicien, peintre, il a fait 230 à peu près peintures, il y en a une qui est là au-dessus, et Kandinsky, pour autant que à un moment quelque chose advient. Et que je pense que ça pose vraiment toutes sortes de questions tout à fait intéressantes qui prolongent un débat qui pourrait rester comme ça au niveau du commentaire. Bon, je ne sais pas si j'y arriverai aujourd'hui, on va voir comment les choses se mettent en place. Mais simplement, je voudrais faire remarquer qu'à partir de ce mot-là, et là je prends appui sur un livre de Jean Clair de 1995 ou 17 qui s'appelle « La responsabilité de l'artiste ». Vous avez peut-être lu ça, où il parle justement de cette dimension de la modernité et où il pose des questions, à mon avis tout à fait intéressantes et radicales, et qui vont tout à fait dans la question qui nous réunit ici, et notamment qui est autour de cette insistance du réel et qu'on essaie de développer maintenant entre nous, là, pour le moment, dans les groupes qui ont lieu, les groupes de travail, et autour de la revue Insistance. Il y a vraiment cette question-là, Quand je regardais un peu ce qui était dit sur la modernité, évidemment, si on reste à l'histoire, on dit peut-être que maintenant on est dans la postmodernité. Je pense que c'est pas ça la question. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que le mode, la modernité, et qu'est-ce que c'est que, et est-ce qu'on peut encore et encore soutenir et supposer ce que pouvait supposer, par exemple, Baudelaire, par rapport à quelque chose qui se développait. Alors voilà, par exemple, ce qu'il écrit. Il parle de l'homme. Ainsi il va, il court, il cherche. Que cherche-t-il? À coup sûr, cet homme, tel que je l'ai dépeint, ce solitaire doué d'une imagination active, toujours voyageant à travers le grand désert d'homme, a un but plus élevé que celui d'un pur flâneur, un but plus général, autre que le plaisir fugitif de la circonstance, il cherche ce quelque chose qu'on nous permettra d'appeler la modernité. Donc la modernité, je le cite, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable. Bon, je ne vais pas en dire plus sur... Il fait référence à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire toute la dimension de l'antique dont on a parlé. Je vous rappelle ce poème qui s'appelle « Correspondance ». La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se répondent dans une ténébreuse profondité, etc. Bon, tout ça pour montrer que Baudelaire était... Je trouve que, vraiment, ça m'apparaît un peu ça que je dis, Baudelaire, on est vraiment très proche de ce personnage qu'on connaissait, bien sûr qu'on connaît. Vous savez qu'un jour, il s'habillait complètement en dandy, tout à fait à la mode, et puis le lendemain, il était habillé n'importe comment. Enfin, c'était quelqu'un, quand même, qui il a touché quelque chose, et je crois, effectivement, qu'il transmet quelque chose. Parce qu'il l'a laissé. Alors, c'est pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est ça un peu la question. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça reviendrait à dire que au cœur de l'humain, donc dans le transfert, on va dire, et ceci parce que nous sommes des êtres qui avons reçu une langue de la mer. On appelle langue maternelle. C'est la langue. Cette langue liée au son, essentiellement. C'est ça, d'abord, qu'on a reçu, cette dimension, à partir de laquelle Alain a tiré tout son travail, beaucoup de son travail sur la pulsion invocante. Du fait que nous sommes les récepteurs de cette langue maternelle, cela va produire des effets particuliers, toute la dimension de la signifiance. Et notamment, évidemment, ça ne se comprend pas, c'est complètement énigmatique, le fait que il y a au cœur de l'humain quelque chose, c'est évidemment difficile d'en parler, mais on peut par exemple penser à ce que peuvent dire ce qu'a pu découvrir un jour Delacroix, vous savez qu'il était peintre, mais qui était aussi musicien, à la différence de Chopin, par exemple, qui était musicien mais qui n'aimait pas la peinture. Ça, c'est une question, pourquoi? Il y a des choses comme ça qui sont... Pas pourquoi, pour comprendre, je crois qu'il y a quelque chose. Bon, ça c'est des questions tout à fait importantes, c'est-à-dire qu'il ne s'intéressait pas spécialement à ce que Delacroix peignait. Alors que Delacroix s'intéressait beaucoup à la peinture, à la musique de Chopin. Eh bien, il y a, et on est chacun à sa façon, je pense, affecté, c'est-à-dire récepteur de quelque chose qui concerne cela, et ça m'amène, je fais un saut, directement de Baudelaire à Schoenberg. Alors, avant de reprendre certains éléments de Schoenberg, voilà ce que dit Schoenberg. Il fait un article en 1909. En 1909, vous savez que c'est juste après, en décembre 1908, c'est quand a lieu la révolution. Enfin, c'est pas une révolution, une subversion, qui est le fameux deuxième quatuor à cordes. Et les critiques seront nombreuses. Et il dit ceci, qui est tout à fait d'actualité. On dirait presque qu'un bagage de connaissances acquises est un obstacle absolu sur le chemin de la liberté. Alors, bien sûr, c'est important d'avoir des connaissances, mais toute la question, c'est est-ce qu'on peut en oublier quelque chose de telle façon que, et Dieu sait si lui, il avait des connaissances musicales, puisque l'année suivante, il va publier son traité d'harmonie, hein, Harmonis Lehre, donc c'est quelque chose qui est tout à fait important. Et pourtant, et là j'insiste sur quelques points comme ça qui me semblent importants, et pourtant, presque 15 ans avant, quand il décide de ne pas rentrer dans ce qui était prévu pour lui, c'est-à-dire de devenir quelqu'un qui va s'occuper de, on va dire, du droit, il devait occuper une position de cet ordre, et qu'il arrête cette dimension-là, et qu'il décide de se consacrer à la composition musicale, il n'y connaît quasiment rien. C'est un autodidacte. Bien sûr qu'il a déjà touché à la musique, mais il ne connaît pas vraiment la musique. Et il va falloir quelques années pour qu'il commence donc à composer. Alors je trouve que là, il y a aussi quelque chose de tout à fait important qui renvoie à ce que j'essaie de dire, cette question-là qui est au cœur de l'humain. Alors vous savez que il va commencer par créer des œuvres qui font penser à ceux qui l'ont précédé, notamment Brahms, et puis progressivement, il ne peut pas ne pas dire oui à quelque chose qui fait que, pour lui, le son et les sons et l'arrangement et la suite des sons, c'est quelque chose qui ne peut pas rentrer dans des règles déjà définies. On a parlé de la tonalité. Et donc, il va être amené, lui, à proposer quelque chose d'autre, qui est cette émancipation de la dissonance. Et dans un article, toujours pareil, il dit ceci, mais voici qu'une nouvelle mode d'estimation des valeurs va apparaître. Et c'est lui-même qui va transgresser, c'est un acte de transgression extraordinaire qu'il fait dans l'angoisse en 1908, mais ce qui est important, c'est qu'il ne peut pas ne pas dire oui. Ça, c'était aussi une énigme. On a beaucoup parlé ici, aussi avec Alain, etc. Qu'est-ce que c'est que ce oui à ce réel-là? Qu'est-ce que c'est que cette chose particulière? Et il y a quelque chose à voir avec ce qui se passe à un moment entre lui et Kandinsky, donc en 1923. Bon, on en parlera. Je ne sais pas si on commencera à en parler ce soir. Qui est la question de l'éthique? Alors, là, je pense que peut-être on pourrait faire un distinguo entre cette expérience. Alors, est-ce que c'est une expérience esthétique, peut-être plus qu'éthique, je ne sais pas. Je ne sais pas bien les mots, là, ça ne va pas de soi. Mais de toute façon, cet appel de l'autre, auquel il répond, cet appel du réel de l'autre, ce oui auquel il répond, par un oui, justement, hein, ce oui. Ce oui de oui, c'est vraiment cette dimension de l'insistance, et cette dimension de l'insistance, c'est justement celle qu'en 1923, on pourrait dire, il va à nouveau, mais je sens que j'ai vraiment envie de parler de ça, mais je vais quand même parler, il faut quand même que j'arrive à parler de ce que je voulais vous dire avant. En 1923, il va signifier à Kandinsky, c'est pas du tout une rupture, hein, puisqu'ils vont se retrouver 4 ans plus tard. Donc c'est pas une rupture, mais quand on lit la lettre qu'il lui écrit à ce moment-là, il écrit 2 lettres, on sent quelque chose qui, moi, me parle beaucoup. C'est comme si on entendait une voix, mais pas une voix avec ses oreilles. On entend entre les mots un silence particulier qui impose quelque chose qui est ce qu'on va appeler tout simplement, mais c'est vraiment pas simple du tout, et pourtant ça va de soi, qui s'appelle la séparation. Il y a une séparation, c'est pas la séparation d'avec Kandinsky, alors qu'on pourrait le penser, c'est la séparation de quelque chose que, moi je dirais ça comme ça, que l'énorme erreur de Kandinsky, on ne sait pas exactement, mais enfin on peut penser quand même que c'est ça, lui permet à ce moment-là, à lui Schoenberg, dans le transfert, de tomber, de laisser tomber. Et je crois que c'est un acte tout à fait important qui a lieu à ce moment-là dans ce qui évidemment prolonge le travail d'Alain, Vienne 1913. Pourrait-il, peut-il, avec le travail qu'on fait ensemble, là maintenant, peut-il ne pas conduire à ce Vienne aussi 1923? Enfin, il y a quelque chose de particulier pour nous dans cette perspective. Alors, je reviens sur Schoenberg, pas spécialement pour redire ce qu'on a déjà pas mal dit, mais sur l'interrogation de Schoenberg. C'est-à-dire, il y a ça, le fait qu'il ne peut pas ne pas dire oui. Bon, c'est une Bejahung, c'est la Bejahung dont parle Freud, reprise par Lacan. Mais il va sans cesse se poser la question suivante. Mais enfin, qu'est-ce qui fait que quand moi je compose, par rapport, contrairement aux autres, alors évidemment parce que je n'accepte plus de rentrer dans les normes habituelles, c'est-à-dire que pour moi, je le paraphrase évidemment, pour moi toutes les notes ont la même valeur, hein, il n'y a pas une règle qui est la règle tonale, où il y a des écarts qui sont définis, une série d'agencements particulières. D'ailleurs, très tôt, quand même, quand il commence, Schoenberg, lui, il favorise beaucoup l'accord de cartes, c'est-à-dire de sous-dominance, c'est-à-dire do-fa, si on veut prendre les choses simplement, do-fa, alors que ce qui était au départ, évidemment, au départ, après ça a un peu changé, mais ce qui était quand même posé, on en a parlé avec Rameau, comme étant important, c'est donc la corde, on va dire le grand parfait, demi-sol, donc do-sol, hein. Pour autant que si vous jouez une tonique, par exemple un do, ou si vous chantez un do, eh bien en même temps, il y a les harmoniques du do à l'octave au-dessus, les harmoniques du sol de la première octave au-dessus, et les harmoniques du mi de la deuxième octave au-dessus. Mais tout ça, ça va donner l'accord parfait, c'est-à-dire des harmoniques qui sont consonants. Et ce qu'il va dire, lui, c'est que pour lui, la dissonance, c'est une matérialisation de la complexité de l'expression. C'est ça. Et bien, je crois que là, il y a simplement dans cette phrase, il y a tout ce qui va le distinguer de ce que les nazis ont récupéré, notamment Goebbels, dans l'expressionnisme. Et toute la simplicité, vous savez qu'ils vont notamment mettre sur un... pendant tout un temps... au pinacle Munch, vous connaissez le cri, hein, ils vont le mettre par suite de cette recherche de ses ancêtres et de ses figures aryennes au niveau de la population qui se trouve chez les Nordiques, qu'il s'agisse donc de Munch, qu'il s'agisse de Nodel, qu'il s'agisse d'autres, ils vont mettre ça au pinacle, sans doute pour récupérer une partie de l'âme allemande, hein, c'est sûr. Mais ce que d'emblée, si vous voulez, pose... Comment ?
Vous pouvez donner ton idée sur ce qui fait que le nazisme trouve dans l'expressionnisme un mode d'expression...
Oui, je vais y arriver. Je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec l'espace et le temps, justement. C'est-à-dire le fait que... par exemple... On va prendre le cri, hein. Vous avez cette représentation du cri de Munch. Il est évident qu'on peut tout à fait dire beaucoup de choses sur le cri. Et donc, le premier courant de l'expressionnisme, c'est exprimer quelque chose de l'intérieur, et notamment une souffrance intérieure, mais en l'exprimant, parce que c'est important de l'exprimer. C'est un peu simpliste ce que je dis. Le nazisme va dire... C'est important, mais ce qui est important, c'est la révolte contre cette souffrance. Donc la révolte contre tous ceux qui pourraient conduire à la souffrance, notamment ceux qui sont responsables de la défaite de 14-18, notamment les Juifs, par exemple, ou de tout ce qui peut arriver en Allemagne. C'est-à-dire que progressivement, c'est ce que, évidemment, Hitler, mais Goebbels va dire, là j'ai pas pris les notes parce que je n'ai pas les citations, je ne crois pas que j'ai les citations de Goebbels là. Si je les ai. Voilà ce qu'il dit. Goebbels, il écrit un roman qui s'appelle Michael en 1929. Et il dit: la structure interne de notre décennie est expressionniste jusqu'en son cœur.
nous, contemporains, sommes tous des expressionnistes. Des hommes qui veulent former le monde à partir de leur propre être. Toute la dimension de l'être, dont on a déjà parlé avec tout ce que ça représente. L'expressionnisme crée un monde nouveau à partir de l'intérieur. Son secret et sa puissance, c'est sa ferveur passionnée. Donc, moi, d'emblée, ça va très vite. La dimension de la ferveur. Et quatre ans plus tard, donc on est en 33, et Goebbels fait encore l'éloge des vues saines de l'expression. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'expression. Parce que Schoenberg se réclame comme expressionniste. Mais on voit bien que toute la question est celle du récepteur dans l'affaire. Toute la question est là. Et on est au cœur, du transfert, parce que c'est la même chose qui joue dans le transfert, suivant que l'analyste est justement là où il en est. Il y a quelque chose du même ordre. Et donc là, on est en 33, et il s'oppose à son grand rival, c'est qu'il y a deux courants. Il y a le courant Goebbels, et puis le courant Alfred Rosenberg, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le mythe du XXe siècle », qui est lui tenant d'un art populaire, on va dire plus plébéien, et dit ceci: nous, national-socialistes, toujours Goebbels, nous considérons les soutiens de la modernité, c'est pour ça que j'ai pris le mot modernité, la plus avancée en matière artistique. C'est-à-dire que l'idée, je crois qu'on a ça en soi, hein, quelque part, on a l'idée de la modernité comme progrès. Alors, il faut quand même penser que la première fois que le mot progrès apparaît dans la langue, c'est sous la plume de César, qui parle du progressum des armées. C'est-à-dire que c'est un terme militaire, au départ, le mot progrès. Hein, ça ne vient pas de n'importe où comme tel. Et il annonçait qu'il était, dans les propos du national-socialisme, on est en 33, d'évaluer l'apport artistique de l'expressionnisme, l'évaluation, et de l'abstraction à la révolution nationale. Il va même organiser donc une exposition de peintres qui ont même été reconnus Goebbels. Il y a vraiment une lutte, mais c'est pas une lutte. C'est vraiment le combat entre un certain type d'expressionnisme au sein du nazisme et un autre, c'est-à-dire c'est la lutte entre Goebbels et Rosenberg. Et finalement, Hitler va arbitrer en 37 en disant: c'est pas Goebbels qui a raison, c'est Rosenberg. Et il y aura à ce moment-là, vous savez, cette exposition d'art dégénéré qui a lieu où? À Munich. C'est-à-dire qu'il y a aussi un glissement dans le nazisme de Berlin, on va dire des cafés berlinois, des intellectuels berlinois, on va dire aux plébéiens munichois et aux brasseries. Il y a ça, mais ça c'est connu, je veux dire, c'est pas quelque chose de... Ce qui m'intéresse moi beaucoup plus, c'est en regard de ce que tu questionnes, Alain, c'est que il y a au départ de l'expressionnisme, notamment, effectivement, entre autres, je crois que Schoenberg est tout à fait là, tout à fait présent, et ça peut paraître curieux de dire que la dissonance est sans doute le plus subtil de l'expressionnisme. Moi, c'est ce que je soutiendrai maintenant, pour avoir été pas mal mis en mouvement par ça, par cette affaire-là. Justement parce que ça ne se comprend pas comme la consonance. Premier point. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Hein. Et deuxièmement parce que finalement, ce que va trouver Schoenberg, eh ben c'est quoi? C'est des accords, comme il va le dire, non classés. Impossible de classer ce qu'il écrit. Et la grande question qui va le parcourir jusqu'à la fin, hein, c'est qu'est-ce qui fait que quand je fais des œuvres musicales, c'est la même question pour les dessins, qu'est-ce qui fait que moi, je parle à sa place, il me faut un espace relativement réduit, c'est-à-dire que les pièces qu'il faisait, ça durait 20, 25 minutes, 30 minutes, ça durait pas longtemps, sauf je parle pas de l'opéra Moïse à Aaron, mais en général ce qu'il faisait, c'était de très courte durée. Alors il expliquait ça parce que effectivement il ne rentrait pas dans la façon dont la musique était habituellement construite, c'est-à-dire dans les répétitions, dans les enjolivures, etc. Il y a tout un dialogue
avant sa rencontre avec Kandinsky, et tout un échange entre lui et Busoni. Busoni, c'est un pianiste qui habite Berlin, qui a une famille de musiciens. Kandinsky, c'est pareil, c'est aussi dans la peinture un autodidacte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui un jour arrête ce pourquoi il était destiné, on va dire familialement, et qui vient habiter pas très loin de Munich, à Murnau, et qui se met à peindre, à apprendre à peindre. Comme ça, par lui-même, il prend peu de cours. Et vous savez que la seule personne qui a donné quelques cours à Schönberg, c'est Zemlinsky, qui a été surpris. Il a donné quelques cours pour un peu comprendre ce qu'était le contrepoint, et qui a été surpris par les connaissances, mais pas les connaissances théoriques, bien qu'il les avait déjà, mais par le génie qu'avait cet homme pour articuler des mélodies et des harmonies. C'est-à-dire qu'avec ce dont on parle, avec l'expressionnisme tel qu'on en parle, vous voyez que c'est là, à la fois la pire et la meilleure des choses. On a là, au niveau de l'art, quelque chose qui est tout à fait important, qui se développe et qui peut être appréhendé de façon très, très proche, je pense, par rapport à aussi ce qui peut se passer, ce qui peut se passer dans le transfert, d'une façon ou d'une autre. Enfin, il y a quelque chose pour moi qui me semble de plus en plus important. Et donc, Schönberg, lui, va progressivement. Alors, ce qui est étonnant dans sa démarche, c'est que après avoir dit oui, après avoir entraîné quasiment des émeutes lors des concerts, il va rester. Hein, moi, c'est comme ça que je conçois l'histoire. Hein, c'est pas avec les dates et les trucs. De 1913 jusqu'à 1923, vous savez qu'il écrit, mais il publie rien. Il commence, par exemple, Michel de Jacob, il commence, il ne peut pas finir. Il y a quelque chose qui, à un moment, s'arrête. Ça me semble tout à fait important, c'est le mouvement comme ça. Il ne publie rien, puis à partir de 1923-1924, ça y est, il a trouvé une certaine organisation du son dans un certain temps et espace. Ça va être la musique qu'on appelle sérielle, c'est-à-dire les séries à 12 tons. Hein, c'est-à-dire la musique à 12 tons, c'est-à-dire avec 12 sons, 12 notes, par toutes sortes de renversements, il arrive à définir, et je pense que c'est quelque chose qu'il était pour lui important d'arriver à donner forme, puisque d'emblée, dans sa rencontre avec Kandinsky, ce qui va apparaître, c'est la question de la construction, encore un autre terme analytique. C'est-à-dire que le mot qui reprend dans la correspondance avec Kandinsky, alors ça se passe de la façon suivante, le 1er janvier 1911, revient l'expressionniste, un courant de l'expressionniste qui s'appelle Der Blaue Reiter, le cavalier bleu, qui vient d'être fondé, qui regroupe Kandinsky, Franz Marc, oui, après, mais après, parce qu'ils ont laissé tomber, ils avaient fait quelque chose, ils ont laissé tomber. Et quelques autres, ils sont au courant de cette musique particulière, et à Munich, un concert est donné, et ça vient 2 ans après, et quelques jours après le concert, la première fois, qu'a été donné ce quatuor à cordes, ce deuxième quatuor à cordes. Et Schönberg, entre-temps, a fait des œuvres. Alors, le quatuor à cordes, je crois que c'est opus 10. Et Schönberg a fait, entre-temps, entre autres, des pièces pour piano, opus 11. Et ils entendent à la fois le quatuor à cordes, c'est très court, hein, et les pièces pour piano, et Kandinsky, à ce moment-là, qui, un an avant à peu près, avait fait ce qu'on appelle la première aquarelle de l'art abstrait, hein, je ne me trompe pas, c'est en 1910 que ça apparaît, c'est daté comme ça, est surpris effectivement des correspondances entre cette, on va dire, disparition de l'objet tel que lui y est arrivé, et notamment il est arrivé par différentes expériences esthétiques, J'en donne une ou deux parce que c'est aussi important. Je pense que c'est important. C'est important à un moment de rencontrer des gens d'expérience, et c'est important dans la formation du psychanalyste, c'est ça, dont je vous parle, évidemment. C'est le fait que, en 1908, un jour, Kandinsky revient dans son atelier, il voit, c'est évidemment pas par hasard, il y a un trajet lumineux, c'est le passage entre on va dire la lumière du jour et celle de la soirée qui apparaît. Il y a un trajet lumineux qui arrive sur un tableau, et à ce moment-là il a une expérience d'inquiétante étrangeté, on peut dire ça comme ça. Il se demande ce qu'il est en train de voir. Il est récepteur de quelque chose, arrêté récepteur, et en fait il s'approche et il se rend compte que c'est un tableau qu'il a fait. Alors dans certains écrits, il est à l'envers, d'autres, il n'est pas à l'envers, mais je crois que ce n'est pas ça le problème. Ce qui est important, c'est la chose suivante, c'est qu'après, il va essayer de retrouver l'expérience, il ne pourra jamais, jamais avoir cette expérience. C'est vraiment toute la question de cette première fois, de « il était une fois quelque chose qui apparaît », et c'est cette nouveauté. Il y a donc cette expérience-là. En 1895, au moment notamment où il décide de se consacrer à la peinture, Il fait l'expérience, vous connaissez sans doute, je crois que c'est à ce moment-là, il va à une exposition, je ne sais plus, c'est Munich ou Berlin, où sont exposées les meules de Monet. Il a le programme, il sait que c'est les meules de Monet, et il n'arrive pas à faire la correspondance entre le signifié et le signifiant. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que c'est les meules, et pourtant, ce qu'il voit, ce n'est pas des meules. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il peut dire. Il voit autre chose, mais il ne peut pas en dire plus. Il y a un décalage, c'est tout à fait une interprétation analytique. À un moment, il y a autre chose qui apparaît. Il y a ça. Et puis, tout ça pour montrer que cet homme, Kandinsky, effectivement, était très proche, ne pouvait qu'être très proche de cette émancipation de la tonalité, c'est-à-dire cette apparition de la dissonance, cette transgression particulière, puisque notamment à partir de cette expérience où il va se rendre compte que ce qui compte, c'est pas du tout ce qu'il voit sur le tableau, mais que c'est autre chose, c'est quelque chose qui a à voir avec les couleurs, il va en déduire que pour lui, l'objet, c'est surtout pas ce qu'il y a sur le tableau, mais c'est justement la disparition de ce qu'on voit. Pour autant que, à ce moment-là, l'objet, c'est la couleur. Sans plus, il ne peut pas en dire plus. Donc, il arrive à une conception quasiment de ce qu'on va reprendre. Nous, l'objet, finalement, c'est effectivement le manque d'objet. C'est autre chose que ce qui apparaît. Donc, l'expressionnisme, pour en venir, je crois qu'effectivement, une des façons de répondre... Alors, je crois que là, Kandinsky dit bien oui au réel... porté par le symbolique, mais la grande question, c'est que s'il dit oui, au moment où cette question va se poser, on va dire sur un plan, je pense, éthique, par rapport à justement à l'antisémitisme, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'il recule. Alors que Schoenberg, effectivement, va, comme je le disais tout à l'heure, parce que Schoenberg, évidemment, l'apprend, et il l'apprend pas par n'importe qui, par Alma Mahler, qui est très proche apparemment de Schoenberg, quelques éléments par rapport à ça. Vous savez que, bon, elle a beaucoup fait souffrir son mari, Mahler, et elle y est pour quelque chose dans les compositions de Mahler, justement, parce que les symphonies de Mahler, c'est pas rien. Et à la mort de Mahler en 1910 ou 1911, c'est toutes ces périodes-là, il y a une fondation qui va être créée, et elle va insister pour que de l'argent de cette fondation soit donné à Schoenberg, qui est en grande difficulté financière. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez proche entre Alma Mahler et Schoenberg, et c'est elle qui va en quelque sorte vendre la mèche à... et dire à Schoenberg en 1923 que Kandinsky, son ami, a des propos antisémites. On n'a pas, on ne peut pas retrouver exactement ce qui a été dit, hein, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il aurait, d'après ce que j'ai pu comprendre, il aurait parlé de façon beaucoup trop légère de ce que va lui dire, mais ça je vais en parler dimanche, du problème juif. C'est-à-dire que pour lui, du problème juif. Et en parler comme ça, pour Schoenberg, effectivement, c'est un propos antisémite. Bon, enfin, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez, mais je vais encore dire quelques mots, puis on va s'arrêter par rapport à ça. Ce que je voulais dire, c'est donc l'importance, en regard de l'expressionnisme, de, finalement, au moins deux directions, celle qui reste dans l'expression de quelque chose d'intérieur, mais qui s'exprime, on va dire, qui s'exprime, je dirais, sans qu'il y ait véritablement un travail de quoi ? Eh bien, d'élaboration psychique inconsciente, puisque d'emblée, Schoenberg répond à Kandinsky, je vous parlais tout à l'heure, c'est la construction, pour moi, ça ne me dit rien du tout. Ce qui est en jeu dans la composition, c'est une création de l'inconscient. Ça, c'est d'emblée, c'est étonnant, effectivement, qu'il n'y ait pas eu des échanges entre Freud et Schoenberg, hein, ils sont tous les deux à Vienne. Donc, pour Schoenberg, il est évident que c'est l'inconscient qui est sans dire plus, mais enfin, il suffit de lire un peu ce qu'il dit. Hein, quand on dit ce qu'il parle des dissonances, on comprend bien que pour lui, l'inconscient, c'est justement pas quelque chose qui est classé, c'est pas quelque chose qui est défini, c'est pas quelque chose qui est organisé, c'est pas le refoulé secondaire. On pourrait rapidement aller très vite à partir de ce qu'il va définir par rapport à la façon dont il s'arrache à la tonalité, finalement, pour promouvoir autre chose. Hein. L'harmonie veut être expression, c'est ça Schoenberg, et non plus un système logique de construction, c'est ça qu'il dit. Et c'est ça, en gros, qui va à peu près répondre à Kandinsky. Alors, ils vont laisser les choses à peu près dans l'état, mais je pense qu'effectivement, il y en avait un, et notamment Arnold Schoenberg, qui, par rapport à cette question-là, n'était plus évidemment dans non seulement il n'était plus dans la question d'harmonie et mélodie comme on en a parlé de cette histoire, même si c'est toujours important sur le plan de la structure, mais on voit bien qu'à ce moment-là, et c'est le moment où apparaît la psychanalyse, évidemment, dans ce monde-là, dans ce monde d'intellectuel, hein, d'intellectuel viennois, dans ce monde particulier, eh bien se pose autrement la question d'un certain expressionnisme qui n'est pas la révolte. Alors, peut-être que dans le national-socialisme, l'appui, je ne sais pas, là, on en parlera, un des appuis qui va faire que ça va marcher beaucoup, c'est qu'il va s'agir de dresser le peuple allemand contre. Et de trouver l'ennemi numéro un. Ça, c'est assez connu. Alors que ce qui est en jeu, évidemment, en fait, c'est la récupération d'un certain versant de l'expressionnisme, dans son versant expression, dans ce qu'il peut exprimer, je dirais de façon relativement simple, au niveau d'un espace limité, pensez au. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous sont allés un jour à Nuremberg, là j'y suis allé, voir l'endroit où parlait Hitler, c'est une place énorme, c'est très grand, mais c'est en même temps très limité, on peut imaginer la foule qu'il peut y avoir là, c'est un espace grand et limité, alors que ce que Hitler va reprocher aux Juifs, c'est que eux, par contre, s'ils s'attaquent à eux, je ne fais pas la citation là, c'est parce que justement, ils sont illimités. Ils conduisent à l'illimité, à l'indéfini. C'est des mots que va employer Hitler. Et c'est sa voix, hein, vous savez, toute la problématique de la voix et des gestes d'Hitler sont dans ce courant expressionniste, puisque finalement, ce qui est en jeu là, c'est aussi tout ce qui est mis, tout ce qui est développé à partir du cinéma muet, parce qu'à partir du cinéma muet, le corps est un corps sans parole, Et c'est un corps qui est quasiment un sémaphore, c'est-à-dire que c'est un corps de signes qui transmet quelque chose de façon saccadée. Et un des mots tout à fait importants dans la langue allemande, c'est « zartig ». Vous voyez dans le « z » qui est là, quasiment le pictogramme des deux « s » qui vont progressivement apparaître comme « ss ». Il y a quelque chose qui est très fort au niveau de ce que les nazis vont prendre dans la langue. Zartig, ça veut dire court, ça veut dire bref, c'est tous les saluts qui vont être organisés, etc., par rapport à Hitler. Et aussi, il y a aussi des mots importants qui sont Sturm et Aktion. C'était deux revues, deux titres de revues expressionnistes, ça. Et ça va passer dans la langue allemande, il va y avoir un glissement avec récupération de certains mots qui sont au départ dans la langue expressionniste. Il y a non seulement quelque chose qui fonctionne au niveau, je dirais, du mode relativement simple de passage de l'intérieur à l'extérieur, mais autre chose aussi qui est au cœur même de la langue allemande.